Et si on en parlait, une émission parrainée par Hydropièce, concepteur de solutions hydrauliques, zone industrielle des Gravasses à Villefranche-de-Rouergue. Quand il y a de l'eau dans le gaz, une seule adresse, Hydropièce. Bonjour, une nouvelle émission de « Et si on en parlait bon, ». Bonjour Cathy.
Et bonjour Michel. Bonjour, bonjour César
bonjour,
à la technique.
Bonjour César
bonjour
à, technique.
À tous.
Et aujourd'hui un invité qui nous vient de Salles-Courbatier, mais surtout au départ de Chamonix. Moi je dis Chamonix, mais toi tu dis Chamonix.
Voilà, mais nous disons tous Chamonix.
Voilà.
On se lève tous pour Chamonix d'ailleurs.
Et donc tu t'appelles Sébastien Burnet et tu es cinéaste.
Voilà.
Mais avant de parler de toi, Cathy va te parler de l'origine de ton prénom.
Ah.
Le prénom Sébastien vient du prénom latin Sébastianus.
Ouais.
Sébastianus est un dérivé du mot grec Sébastos qui signifie vénéré.
Non.
Ce dernier est aussi apparenté à Sébomé, qui signifie « éprouver une crainte religieuse ».
Ah, c'est pas vrai.
Saint Sébastien fut un militaire romain converti au christianisme et qui est mort en martyr au 3e siècle. On l'honore le 20 janvier.
Exact.
Mais la personnalité de Sébastien. Sébastien est un homme méthodique, ambitieux et intelligent. Tenace, il se donne les moyens de réussir tout ce qu'il entreprend et n'a pas peur de travailler dur pour y arriver. Son éloquence et son charme naturel l'aident également à réussir. Et il en est conscient. Il adore parler et convaincre les autres. Un tantinet narcissique, il aime être sur le devant de la scène et accaparer l'attention. L'un de ses points forts est sa faculté à communiquer avec autrui. Il trouve toujours le bon mot pour mettre son entourage à l'aise. Cet homme reste toujours chaleureux dans ses échanges, poli et courtois. Sébastien a une vie sociale très active. D'ailleurs, rester seul chez lui ne l'intéresse guère. Il préfère sortir, s'amuser avec ses amis et faire de nouvelles rencontres. Sébastien est l'ami qui vous met toujours de bonne humeur. Les autres lui font confiance et se confient facilement à lui parce qu'il est compréhensif et ne porte aucun jugement. Il est de bons conseils et doué pour trouver des solutions. En revanche, Sébastien se confie très rarement et préfère résoudre tout seul ses problèmes. Sébastien cherche toujours à faire plaisir par de petites attentions qu'il octroie au quotidien aux personnes qu'il aime. La couleur associée au prénom Sébastien est le jaune. Pas la couleur préférée, attention. Associée au prénom. Couleur du roi et du soleil. Le jaune symbolise la puissance, la lumière et l'excellence. Sous l'influence de cette teinte chaleureuse et vive, Sébastien se montrera encore plus confiant. Il pourra ainsi développer ses capacités. Le jaune représente également la joie, la tonicité et le dynamisme. En cas de perte d'énergie, le jaune est parfait pour se revitaliser, retrouver la bonne humeur et le courage. Donc, il faut porter du jaune, tu vois. La pierre précieuse associée au prénom Sébastien est l'ambre. Cette gemme symbolise la beauté, la simplicité et l'équilibre. L'ambre aiderait à combattre le stress, l'angoisse et la mauvaise humeur. Cette pierre apaiserait également les tendances dépressives en procurant une sensation de bien-être. Je vais en acheter une, tiens. Le chiffre porte-bonheur de Sébastien est le 4. Symbole de la construction, de l'ordre et de la stabilité, le 4 aide à garder les pieds sur terre. Ce chiffre fait également référence au travail et à la volonté. Sous son influence, Sébastien se montrera plus méthodique et réussira ainsi dans ses nombreux projets.
Ah bah,
voilà
beaucoup.
Sébastien,
merci
cadeau, docteur. Tiens, tu le reliras.
Tu t'y reconnais là?
Oui, j'adore rester chez moi.
D'accord.
Mais bon, il y a plusieurs phases.
Il y a plusieurs Sébastien aussi, c'est le prénom global. Hein,
non, mais bien sûr, non, mais je comprends. Mais quand on vieillit, peut-être parfois, on aime mieux rester chez soi.
Ouais, c'est
on
vrai.
On est bien chez soi, puis surtout maintenant, avec la radio.
On écoute la radio et on écoute CFM.
Bon, allez, on va essayer de te connaître mieux. Alors, moi, je voudrais savoir où tu es né, quand tu es né, pourquoi, comment, et quel,
pourquoi,
auquel.
Bah,
surtout pourquoi, c'est ça qui est très intéressant.
Ils ont dû fauter.
Et voilà.
Et le jour exact?
Le 25 octobre.
De quelle année?
Eh ben, 68.
68.
Oh là là, la belle année.
Année de la cuite. comme on dit.
T'as loupé d'un an l'année érotique, mais bon.
Oui, c'est pas grave, l'année de la cuite.
L'année de la cuite, je préfère. Là, t'as pas loupé. Là.
Oui, parce que érotique, on peut faire tout le temps.
Tu es né où, à Chamonix?
À Chamonix, ouais, Chamonix.
Pardon.
Voilà, en automne.
Oui.
Voilà. Et tout fonctionnait bien, parce que si j'étais né en mai 68, bah, il y aurait plus eu de docteur, il y aurait plus personne.
Et oui, c'est sûr.
Et
ouais,
grâce à.
Ah, ben voilà, t'es né à la fin d'année, en fait.
Je suis né en fin d'année.
C'était un petit peu passé.
Voilà, c'était un peu passé.
Juste avant la guerre.
Calmé.
Juste après.
Ah, oui.
Non, ah, juste, ah, après.
Non, juste après. Juste après la guerre.
Bah, oui, enfin,
vous avez fait la guerre pendant un mois, vous, ça allait, quoi.
Oui.
Ouais, mais c'est déjà pas mal, hein.
Et c'est déjà bien.
Ils sont arrêtés juste un peu trop tôt.
T'étais en train de courir dans le quartier Lapin?
Oui, tout à fait. Moi, c'était à Toulouse. Hein.
À Toulouse.
Voilà,
octobre 68.
Ouais.
Alors, tu es resté quelques années à Chamonix?
Ah bah, j'y suis resté 20 ans.
20 ans, t'as fait des études à Chamonix?
Ouais, non, enfin, j'ai essayé de faire des études, mais je suis pas arrivé. Donc après, je suis parti travailler dans les jeux.
Mais tu
es... casino.
Ah bon?
Oui.
Tu as fait tes études jusqu'à quand? Jusqu'à quel âge?
J'ai pas le certif.
Ah,
ça, c'est pas bien, il faut pas le dire aux jeunes.
Hein.
Jeunes passaient le bac.
Je ne l'ai pas non plus. Hein.
Ah, ben, il n'a pas. Bon,
ça, j'ai le bac, pas. Mais j'ai pas le certif.
En même temps, ça ne nous étonne pas que Michel n'ait pas le certif.
Ah, mais j'ai le bac.
Tu as prononcé des X, ça tout. Le brevet de quoi?
Le BEPC.
Ah, le brevet de CM2, voilà. Ouais. C'est bien, c'est bien.
Et bien, hein.
Et c'est bien, je suis un peu taquin.
Et tu as travaillé dans les jeux?
Les jeux, oui, j'ai...
Dans les casinos, tu sais
oui,
quoi, au casino?
Au casino de Chamonix. Eh ben, il y avait beaucoup à cette époque-là.
Ouais.
Il y avait une grosse clientèle italienne.
Oui. Oh ben encore, hein, je pense.
Non, c'est un petit peu passé... C'est un petit peu passé...
D'accord.
Et donc, du coup, j'ai appris la roulette, le blackjack.
Ah, tu as appris à tricher, parce que la roulette, les mecs, ils la jettent quand ils veulent, hein, quand même. Hein.
Le casino gagne toujours.
Oui, le casino, je sais, gagne toujours.
Plus.
Mais ils reversent quand même.
Ah, ils reversent l'État.
Ils sont obligés, voilà.
Mais comment tu t'es retrouvé là-dedans?
Parce que j'avais quelqu'un de ma famille qui m'a fait rentrer, parce que c'est un petit peu comme une famille, on rentre pas dans un casino.
Enfin,
à l'époque.
N'importe
si maintenant, avec
pas.
Une Kalachnikov, notamment.
Oui, mais maintenant, il n'y a plus beaucoup rentre, d'argent hein. Dans les casinos, c'est machines à sous et tout ça. À l'époque, il y avait...
Il y en a quand même. L'autre fois, il y a eu une casse à Aix-en-Provence, où les mecs
ont tout piqué. Oui. Enfin, parce qu'Aix-en-Provence, ça reste encore un gros casino, mais il y a moins toutes ces sommes qu'on avait avant en liquide, avec la roulette et le blackjack. Maintenant, il y a des machines à sous qu'on appelle
les
bandits manchots.
Bandits manchots.
Et ça n'engrange pas autant d'argent
qu'en
dans les années 80. Parce que moi, j'ai commencé à travailler en 84. De 84 à 88, il y avait vraiment le casino de Chamonix, qui est déjà une ville touristique.
D'accord. Et tu faisais quoi là-dedans, toi?
Alors, je faisais le matin, je faisais l'école des jeux. Et le soir,
l'école des jeux. C'est
quoi, l'école des jeux. Apprendre à faire
apprendre à jouer.
Apprendre à être croupier.
Ah d'accord.
Eh ben, il faut savoir lancer la boule.
Savoir lancer la boule. Ah oui, ça s'apprend parce que si
distribuer
vous...
les cartes. Machin.
Voilà, c'est-à-dire que par exemple, si nous sommes trois là, ou quatre, voilà. Si chacun met différentes pièces de plastique de différentes valeurs sur les 36 numéros, plus rouge, pair, impair, etc. Il faut savoir les calculer. Et donner dans la seconde à chaque personne
ce qu'il a gagné,
ou ce qu'il a perdu avec des râteaux.
C'est compliqué.
Ah oui. Non mais voilà, ça s'appelle croupier.
C'est pour ça c'est une école.
Croupier.
Hein. Voilà. Il paraît qu'il y a des croupiers du culte qui se perdent.
Voilà. Oula. J'ai mal à ma France, monsieur. J'ai mal à ma France quand j'entends ça.
Alors donc tu es resté 4 ans.
Oui, je suis resté 4 ans pour. Bah non, parce que comme j'étais, sinon j'aurais pu faire petit voyou quoi.
C'était au choix quoi.
Voilà, parce que j'étais... Non, mais pas
petit
voyou.
Et alors, qu'est-ce que ça fait
quoi,
d'avoir autant de sous sous les yeux comme ça, tous les jours?
Eh ben, ça... En fait, ça... Moi, ça m'a pas tourné la tête. Déjà, moi, je suis pas joueur. Déjà, comme ça, moi, ça m'enlève, déjà, parce que c'est quand même
sinon,
une drogue.
Facile,
Non, mais même, c'est aussi une drogue. Parce que moi, j'ai vu des gens, jouer jusqu'à leur tout.
Oui.
Et se suicider, enfin.
Ouais.
Mais c'est pas un mythe, hein, ça existe.
Oui,
hein.
Je sais. Ouais.
Le jeu est vraiment une drogue dure. Donc, qu'est-ce qui me fait l'avoir vu? Bah, justement, ça, le fait d'avoir vu autant d'argent comme ça en liquide, à l'époque, c'était des francs et c'était des lires, la monnaie italienne, et des francs suisses. Donc, bon, bah, du coup, ça désacralise l'argent, en fait, parce
d'accord.
que, et bon, comme c'est dans un milieu luxueux, et puis que nous, on avait droit à tout. On buvait comme eux du champagne, du vin. C'est comme ça que je suis devenu alcoolique. si vous voulez parler.
Quel est ton métier? Je suis alcoolique.
Bah, je suis alcoolique. Non, mais c'est vrai. Enfin, parce
c'est
que
pas
bon,
que passer à côté de tous les vices, en fait. Donc.
Voilà, bah, j'ai essayé quand même.
Si, les cigarettes, tu fumes pas, je crois.
Si, un peu, ouais.
Un
si.
Peu, ah bon. Bah,
là, on
ne
peut plus fumer nulle part maintenant.
Ouais. C'est pas
donc,
mal.
Et sinon, et après, bon, bah, j'en avais marre parce que je me suis dit, bon, il faut que je fasse autre chose parce que, sinon, donc le soir, je travaillais au bar où je travaillais à la restauration. Donc, j'ai appris un métier de serveur de restaurant gastronomique. C'est-à-dire, ouais. on était en costume, on découpait des poissons, etc. Et donc, bon, bah, moi, c'était pas mon truc. Donc, comme je gagnais quand même pas mal d'argent, et ben, je faisais des économies. Et quand je pouvais, ben, j'allais louer une caméra vidéo. Ouais. VHS ou une Super 8 et puis j'ai commencé comme ça à faire du cinéma, donc j'envoyais mes petites pellicules Kodak par la poste. Je sais pas si vous vous souvenez de ces petites caméras, et on les mettait dans des petits pochons jaunes et on les donnait à la poste et Inch'Allah on savait pas quand est-ce que de quoi une semaine plus tard on recevait le truc et on regardait et on découvrait les images.
D'accord. Et qu'est-ce que c'est que tu filmais à l'époque?
Eh ben, j'inventais des petits scénarios.
Ah, carrément, tu commençais à inventer des...
Oui,
mais
oui.
Ça t'est venu comment
ça,
cette idée-là? Ça
m'est venu comme la pluie, comme la neige.
Comme... Si on dit comme une envie de chier. C'est ce qu'ils disent ici dans l'avion.
Mais j'ai mal à ma France.
Voilà. Bah, et c'est ce qui se dit ici.
Oui,
d'accord.
Oui, hein.
Bon, hein, quand même, bon appétit tout le monde.
Ça, je dis. Oui, mange pas.
Tout du cru, ça s'appelle.
Trop du cru.
C'est pour ça que ça. Tout du cru. C'est quoi qui t'a donné envie de filmer?
Je ne sais pas. C'est l'envie d'avoir envie, comme dit Johnny.
Il y a un film spécial.
Non, c'est, je sais pas, c'est comme le, bah non, je veux pas de film.
Est-ce que tu aimais le cinéma déjà?
Bah oui. Enfin oui.
Oui, voilà, donc
oui,
c'est
j'aimais
ça
le
aussi.
Cinéma et
tu voyais beaucoup de films, tu allais.
Oui, mais je allais souvent à Chamonix, bon à Chamonix, et c'était, ça commençait à être l'époque où il commençait à y avoir des vidéoclubs. Donc du coup, on pouvait voir déjà, on avait un plus large choix de films. Et plus le cinéma, et puis donc du coup, ben voilà, je suis donc j'allais en louer très souvent. Je regardais tous les soirs. Il y avait la comment ça s'appelle le film le ciné-club, dont il passait les classiques là, tous les films d'Hitchcock, d'Orson Welles, etc. Et sur la 3 aussi. Il y
avait c'est 15 spectateurs aussi.
Non, c'est 15 spectateurs, c'est où il passait ça, c'était le matin, ça.
Oui, mais ouais, tu pouvais pas le matin.
Non, mais j'aimais bien cette émission, là, c'était sympa. Et donc, du coup, bah, franchement, je sais pas.
C'est venu comme ça.
Oui, c'est venu comme ça, parce qu'en même temps, c'est un métier, on n'est pas vraiment obligé d'apprendre toutes les techniques, quoi. C'est pas, effectivement, il y a des,
ils
ont écrit un scénario. Ça s'apprend quand même assez rapidement le cinéma.
Oui, et puis tu peux faire comme tu veux, quoi. Tu peux innover, tu peux, je veux dire,
il n'y a pas vraiment de, ça dépend. Bon, évidemment, si on veut vendre.
Il y a pas de barrière, vraiment, quoi.
Si on veut trouver de l'argent, parce qu'il faut pas oublier que le cinéma, c'est quand même une industrie. Ouais. Donc si on veut quand même capter un certain public, tout public, qui peut regarder un film à l'heure là où on passe vers 20h, 20h30, on peut pas mettre des films trop violents ou trop axés sur certains problèmes. Bon, et donc on peut faire comme on dit aux États-Unis entertainment. Ouais. Hein, c'est-à-dire que voilà, on fait le E.T., on fait les visiteurs, on fait le Grand Bleu, on fait. Mais c'est très dur à faire ce genre de film. En fait, on pense que c'est facile, que c'est des conneries, que c'est des bêtises ces films. Mais ce qui est le plus dur en fait, c'est les vraies grosses comédies. Faire un film triste. C'est relativement facile, mais réussir une très bonne comédie, comme Les Bronzés, ou La Grande Vadrouille,
Faire pleurer, tu penses que c'est plus facile que de faire rire?
Bah oui, parce que faire rire, il faut pas oublier que quand on fait un film, on est 50 sur un plateau. Ouais. Et il faut quand même des comédiens qui envoient du truc, quoi. Mmh. Comme De Funès, Bourville. Ouais. En France, en plus, on est bien dans les comédies.
Et donc, tu as commencé, tu faisais jouer qui?
Ah bah je faisais jouer des copains, des copines, ma grand-mère.
Ouais. Et tu faisais quoi comme histoire? C'est quoi?
Ah bah
c'était quoi comme style? Des trucs drôles ou?
Je variais à chaque fois.
Ouais. Et tu inventais à chaque fois une petite histoire?
Ouais, parce que quand je voyais je m'adaptais un peu à la situation. J'allais pas faire jouer. Si j'avais fait faire de la mobilette à ma grand-mère dans la neige.
Et tu écrivais les dialogues et tout ça, tu leur disais.
Oui, oui, oui. Enfin, il y avait assez peu de dialogues parce que le son était très mauvais. Donc du coup, voilà, c'est-à-dire que on s'adapte toujours quand on veut faire des films, on s'adapte toujours à la technique. Mm-hmm. Enfin, quand on est pauvre, parce que ça devient tout de suite riche, cher, oui, de faire des films. Ouais, ouais. Donc maintenant, c'est quand même un peu plus facile. C'est pour ça que je dis là à tous ces jeunes là qui bossent, qui ont des chaînes sur YouTube, je trouve ça très bien. Parce que, bon, ça coûte rien, mm-hmm, et c'est diffusable tout de suite. Ouais. Ils sont dans leur plan fixe devant leur webcam. Et puis donc, eux aussi, ils sont obligés d'improviser. Ouais. Et moi, comme je n'ai aucun talent d'acteur, eh ben je m'entourais de ce que je pouvais. Et j'évitais de mettre trop de dialogue. Et c'est pas plus mal, parce que l'essence même du cinéma, c'est le cinéma muet. Mmh. C'est bon, il n'y a pas mieux que les films de Charlie Chaplin, par exemple.
Oh, ah bah oui.
Quand il fait Charlot, c'est-à-dire que tout y est. C'est-à-dire qu'il fait un œil, un regard, un petit chien, un petit gamin. Mais bon, voilà, ça c'est absolument génial. Et rarement des films, même parlants, n'arrivent pas à avoir la puissance des films de Buster Keaton, des films de Max Linder, ou des films de Charlie Chaplin, Charlot, finalement.
Ouais. On va faire une première pause musicale en écoutant le morceau que tu as choisi. T'as failli virer Voyou, justement.
Ouais, non, pas
si
Voyou,
j'exagère. Pas rentré...
On ne sait pas comment on peut virer.
Ben, Brassens, il a failli faire pareil. Hein.
Voilà.
C'était un peu... Ouais. J'allais dire, comme disait Brassens, justement, c'est que tu peux avoir un don pour faire du cinéma, par exemple, mais il faut quand même la technique. Lui disait, il parlait d'une prostituée, il disait qu'elle avait le don, mais un don sans technique n'est jamais qu'une sale manie.
Oui, tout à fait.
C'est un peu pareil.
Mais quand on aime un métier, on le fait bien, que ce soit pour la prostituée ou pour le guitare.
Pour le guitariste. Ben oui, tout à fait.
Ben oui, on se donne les moyens, quoi.
Parce que c'était pas quand même Jimi Hendrix, Charles Brassens.
Faut pas embêter Michel au niveau accompagnement.
Sinon, il coupe sa moustache et
je peux te dire qu'au niveau accompagnement, il chante décalé, tout ça, c'est très difficile ce que fait.
T'as toute la compile.
Attention,
pas toucher Brassens. Bon, allez.
Allez, on écoute. Je suis un voyou, mais pas Brassens, c'est Coluche. On écoute.
On écoute Coluche.
Je vous rappelle que nous sommes avec Bugs Bunny.
Bugs Bunny, quoi de neuf, docteur?
Tu as jamais fait, bah ouais, c'est la voix.
Bah, c'est la quoi de neuf, docteur?
Et ça en fait partie, le doublage. Le doublage,
oui, mais j'en ai jamais fait.
T'as jamais fait?
En revanche, non, parce qu'effectivement, c'est un métier de metteur en scène, dans le sens où, quand on double tous ces gros films américains, par exemple, Tom Cruise ou... je perds les noms des actrices là, toutes les grandes actrices américaines, elles ont traducteur,
même, en fait.
Stallone par exemple.
Son double en français.
Mais pareil, Bugs Bunny, c'est pareil.
Bugs Bunny, c'est Roger Carrel, c'était ton père.
Oui, c'est mon père, c'est la famille de Danny Carrel, je crois.
Oui, de Danny Carrel, c'est une actrice, oui. Et comme par exemple, une série qui s'appelle Amicalement Vôtre, c'était un grand acteur de théâtre qui doublait tout le temps... Tony Curtis.
Oui, Tony Curtis. Voilà.
C'était Michel Roux, je crois. Celui qui doublait Starkey, c'était Jacques Balutin.
C'était des voix.
Et quand on aime, Stallone ou Woody Allen, ils ont leur voix. Et quand leur voix française, elle change... Et le metteur en scène, enfin on peut dire, il se charge aussi de pendant cette post-production de traduction, donc ils sont enfermés devant leur film, une projection avec uniquement les dialogues qui passent en dessous, et donc ils dirigent les comédiens.
Ça doit être un métier, ça.
Voilà.
Vachement difficile, hein, doubleur.
J'avais une amie qui doublait dans une série qui s'appelait... dans une série américaine où Johnny Depp a démarré, ça s'appelait 62 Jump Street, ou je sais pas quoi. C'était dans les années 80. Et cette série s'est arrêtée, et du coup, elle s'est retrouvée au chômage.
D'accord.
Voilà, parce que en même temps, quand vous voyez des enfants doublés, c'est pas vraiment des enfants, ça peut être des femmes qui ont une voix qui se situe où elles peuvent avoir. Et je sais pas pourquoi on parle de ça.
Ça fait partie de la post-production,
mais
et la musique aussi.
Et la musique, voilà. Et donc moi, dans mes premiers films, ce qui me plaisait, c'était d'engager un vrai compositeur.
Mais alors, attends, avant d'arriver à ton premier, c'était vrai film. Comment ça a évolué tes petits films du départ? On était resté avant d'écouter Coluche. Tu nous parlais de tes débuts. Qu'est-ce qui s'est passé après?
En amateur, soit en vidéo VHS, soit en Super 8, comme on se l'est dit. Et ensuite, de ce Super 8, j'ai voulu faire un film semi-professionnel. Alors donc c'est l'époque où j'ai arrêté de travailler au casino et je suis parti vivre à Lyon. Ville des Frères Lumière, c'est là où était inventé le cinéma.
L'arrivée du Méliès, pardon. Je confondais. L'arrivée du train en gare de Perpignan.
Non, c'est les Frères Lumière.
Les Frères Lumière, voilà.
Parce qu'il est la sortie d'usine de l'usine Lumière, donc à Lyon. Et donc à Lyon, je me suis renseigné, est-ce qu'il y avait des cinéastes amateurs? Alors oui, il y avait un groupe de cinéastes amateurs qui étaient plutôt des gens, moi à cette époque-là j'avais 20 ans, eux ils en avaient plutôt entre 50, 60, 70.
D'accord.
Oui, c'était plutôt des retraités, mais ils avaient beaucoup de matériel. Ils avaient des caméras, 16 mm, donc c'est-à-dire plus gros que le 18, mais pas le format professionnel qui est le 35 mm. Donc j'ai écrit un scénario que j'ai envoyé au CNC, ce qui est le Centre National du Cinéma à Paris, et j'ai gagné, à l'époque c'était 10 000 francs, ou 5 000 francs, je ne sais plus combien.
D'accord.
Voilà, et sur le scénario, donc c'était Jean Rouche,
Jean Rouche, je connais.
Qui seul a défendu plus ou moins mon projet, parce que j'étais un petit peu en ballotage, comme on dit, il a dit, si, là, il faut prendre celui-là, etc. Et donc avec ces 10 000 francs, donc j'ai pu louer la meilleure caméra, parce que je me suis dit, bon, autant, faut d'abord quand même... et puis donc c'était un film qui durait une vingtaine de minutes.
Donc tu as eu ce prix pour pouvoir faire le film.
Voilà, j'ai eu de l'argent du CNC.
D'accord.
À l'époque ça s'appelait le Grec. groupe de, cinéma et recherche cinématographique.
D'accord.
Et donc je devais, voilà, il m'avançait petit à petit l'argent, et donc j'ai pu tourner. C'était un film qui était assez long. Il y avait des acteurs que j'allais chercher au cours Simon.
Ouais.
Il me fallait des armes, donc j'allais chez Baratier. Baratier, c'est un des plus gros fournisseurs d'armes. Enfin, factice mais vrai. Parce qu'il me fallait, voilà, j'ai été chez Renault à l'époque pour avoir une belle Renault 25.
Ah oui, donc c'est quand même beaucoup de travail.
Et je me suis dit, je me suis dit, mais c'est dingue parce que je faisais tout seul avec ma petite amie de l'époque. Mais elle, bon, elle faisait ses études, mais bon. Et finalement, j'allais chez Renault et j'allais dans le grand parc pour les voitures de jeu. On appelle les voitures de jeu, c'est les voitures qui sont faites pour jouer.
D'accord.
Mais bon, ça n'en reste néanmoins que des voitures. Donc j'avais demandé à l'époque c'était Renault 25, une voiture de ministre, quoi, on va dire.
Ouais.
Voilà, parce que c'était un ministre véreux, comme d'habitude.
D'accord.
Je me suis dit, mais ce métier est quand même assez formidable parce que je me suis pointé chez Renault. Pas le chanteur.
Oui.
il était au bar, lui.
Donc,
chez Renault.
Ouais.
Et ils m'ont dit, écoutez, voilà, signez-la, apportez-nous. J'avais signé un papier comme quoi je ne disais aucun mal de Renault, pas de la société, que je n'habillais même pas la voiture. Enfin, sauf s'il y avait une cascade, il fallait que ça soit comme ça. Et donc, je suis sorti de. C'était à Boulogne-Billancourt. Dans la région parisienne. Ensuite, je suis parti chez Maratier. C'est lui qui avait toutes les armes.
Chercher
des armes. Et
c'est t'as fait en premier hold-up.
Et je me suis dit, mais c'est quand même un métier formidable parce que ces gens-là, et d'ailleurs, ils sont toujours sur le coup, hein, parce que bon, des voitures dans les films, ça leur fait une pub.
Bien sûr.
Et donc je me suis dit c'est quand même un métier formidable parce que d'un coup moi je suis là, j'ai fait signer 3-4 papiers, ils ont lu mon scénario et je pars, j'ai une voiture qui vaut 200 000 francs, à l'époque, je vais chercher, j'avais des fusils à pompe, des magnums, je reviens chez moi et plus je devais avoir... J'étais passé chez un fleuriste parce que j'avais besoin d'un gros bouquet de fleurs. Puis bon, en échange de quoi, évidemment, au générique.
Bien
donc
sûr.
Je me suis dit, c'est quand même bien parce que j'ai pas dépensé un franc.
Et tu ramènes plein de trucs chez toi.
C'est pas à moi, mais bon, ils m'ont dit...
Oui, tu rends après, de toute façon.
Ils m'ont dit, il y avait le plein de la voiture. Enfin, je veux dire, après, il fallait pas que je me la fasse voler.
Mais pour les femmes, comment t'as fait, alors?
Pour les femmes.
Aller à Rue Saint-Denis, alors.
Ben non, parce que non, il y a des femmes, tu leur mets leur nom au générique, ça s'appelle les actrices.
Ah, d'accord. Ouais.
C'est ce que disait Jean-Luc Godard. Il disait, c'est quand même le seul métier où tu peux aborder n'importe quelle fille dans la rue et lui dire, est-ce que mademoiselle, bon, tu peux, mais non, c'est peut-être un peu plus, enfin encore que, hein, tu peux aborder n'importe quel homme, toi, je sais que t'es plus, ou mais pas les enfants. Hein,
moi pédé, plutôt me faire enculer. Quand
voilà. J'ai mal à ma France, monsieur. À cette heure-là, hein, c'est terrible.
Michel, bon appétit encore.
Ça y est, ils sont déjà barrés. c'est le seul métier où tu peux aborder des gens. Enfin des jolies jeunes femmes. Tu me dis si vous voulez faire un essai.
Ouais.
Après ça voilà quoi.
Et ça marche?
Oui, ça marche. Mais enfin bon, c'est pas. Après il faut aussi que les gens soient quand même acteurs. Quand on va,
c'est sûr, ouais.
Non, mais après, il y a des gens qui...
Et comment tu faisais pour choisir tes acteurs, toi? T'allais dans un cours et tu regardais jouer?
Est-ce qu'il irait bien? Après, il faut qu'il y ait aussi un feeling, quoi. Parce que bon, effectivement, dans cette période-là, enfin, quand on en est à ce stade-là, c'est l'intérêt de tout le monde de faire un bon film pour zéro argent. C'est-à-dire que, eux, ils pouvaient avoir un petit rôle ou le rôle principal. Mais bon, évidemment, donc ils n'étaient pas payés. Mm-hmm. Moi, je me payais pas. C'était des productions à l'arrache, comme on dit. Et donc c'était idem pour le caméraman, idem pour le monteur, idem pour l'électricien. C'est-à-dire que plus eux, s'ils voulaient travailler avec du matériel qui les intéressait, et ben justement, c'était l'occasion pour eux de tourner. J'ai fait un film en 35 mm que j'ai vendu à Canal+. Donc, ce qui m'a permis d'avoir des techniciens beaucoup plus performants, mais qui travaillaient avec moi gratuitement, de manière à, parce que eux pouvaient travailler par exemple en cinémascope.
D'accord.
Ce qui arrivait pas souvent. Mm-hmm. Ça c'était en 95. Mm-hmm. Donc c'est un film qui s'appelait Mister Fourmi.
D'accord.
Et c'était et celui-là vous pouvez le voir sur YouTube. Mister Fourmi.
Mister Fourmi.
Ouais, Mister comme monsieur en anglais et Fourmi, ouais, ma fourmi. Comme fourmi.
D'accord. Voilà, mais ça, c'était pas le premier parce que le premier.
Non, c'était pas le premier. Mais
le premier, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, tu as.
Le premier, ce que ça m'a pas apporté, ce que ça m'a apporté, ce que ça m'a pas apporté.
Ce que ça t'a pas apporté.
Non, ce que ça m'a apporté, c'est que d'abord j'ai fait un film.
Ouais.
Ensuite, donc il est passé en commission au CNC. Il y a des gens qui ont aimé, il y a des gens qui n'ont pas aimé. Et à Chamonix, il y a une télévision qui s'appelle, elle est à Annecy, qui est la préfecture de Haute-Savoie. Il y a une télévision qui s'appelle 8 Mont-Blanc.
Mm-hmm.
Donc, idem, quand même un petit peu à CFM, ils m'ont invité à passer en direct à la télé.
Ils ont passé ton film.
Ils ont passé un extrait, pas le film entier, d'accord, parce que comme ils diraient, ils ont passé le truc, ils m'ont posé des questions comme vous, ouais, c'est-à-dire, comment, toi, t'es là, mm-hmm, etc. Enfin, vous êtes là. Et puis voilà, donc du coup, et puis entre temps, il se passe quand même beaucoup de temps.
Si, comment il s'appelait ce film?
Il s'appelait La mort parquée. C'était une histoire sur la... J'avais imaginé, c'était bien avant toutes ces histoires de vaches folles et de porcines et tout ça, que les gens devaient supprimer tous les mammifères et les parquer.
D'accord.
Alors il y avait, et je faisais un focus sur une vieille dame qui avait un chat, son chat, c'était son seul truc de vivre, mais il y avait...
Elle voulait pas s'en séparer.
Il y avait une milice comme ça, c'était dans un état un peu fasciste, quoi. C'était un film, ouais, un peu d'anticipation, mais qui pourrait très bien se passer.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que tous les mammifères auraient chopé plus ou moins une espèce de cette maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Ouais. Ouais.
Voilà. C'est-à-dire, mm-hmm, que donc, pas seulement les vaches, mais tous les animaux de la ferme, et donc les animaux domestiques, les chiens, les chats.
Ouais, donc il fallait supprimer tous les...
Il y a des gens qui... Voilà,
et qui voulaient
pas,
ouais.
Je faisais le focus là-dessus.
D'accord.
Il y a pas mal de petites grand-mères qui habitaient à côté de chez ma grand-mère, là,
mm-hmm,
qui s'étaient totalement identifiées au truc. Donc, je les voyais, elles étaient très, très émues parce qu'elles se mettaient, ouais, dans cette...
D'accord.
Voilà, donc ensuite, j'ai fait tous les festivals qu'il y avait donc à faire à cette époque.
Mm-hmm.
Le premier étant celui de Clermont-Ferrand. Et puis ensuite... Il y a plein de festivals, donc j'ai gagné des prix, des premiers prix,
ouais,
il y a des fois j'ai rien gagné, enfin voilà quoi.
Mm-hmm.
Et ce qui permettait d'être après, un peu avec tous mes autres camarades, réalisateurs ou acteurs, que j'allais retrouver plus tard, parce que là, à cette époque-là, on avait tous 20 ans.
Ouais.
Enfin, ceux qui étaient là. C'était notre... Oui, parce que si on en est encore à faire des courts-métrages à 60 ans, c'est que... non, mais enfin... Ça se peut, mais le court-métrage, ouais, c'est quelque chose de très dur à faire,
mm-hmm,
parce que c'est pas assez court comme une pub, parce que vous pouvez avoir des pubs formidables. C'est vrai qu'il y a vraiment des pubs,
ouais, très rapides, très flash, comme un flash.
Et on comprend tout. Les, ouais, acteurs sont top, le message est super clair. Qu'un court-métrage, c'est un truc un peu bâtard. C'est-à-dire que on peut pas faire de l'hyper efficace.
Ouais.
En 15 minutes, enfin c'est assez rare, hein. Des bons courts-métrages, c'est super rare. Et c'est pas assez long, de manière on n'a pas le temps
tu
de
s'installer. Tu peux pas trop développer non plus.
On se dit, on aimerait bien voir la suite. Ouais, mais bon, ouais, la suite, ouais, elle est pas là.
Ouais.
C'est quand même l'exercice, ouais, le plus dur. Donc en fait, dans le cinéma, on commence un petit peu par le plus dur.
Et oui.
Et sinon, si on veut commencer par le plus facile, mais là, il faut avoir le talent d'acteur. C'est ce que font tous, c'est ce qu'on fait tous ces gens, là, comme Coluche, comme Jamel Debbouze, Omar Sy,
mm-hmm,
tous ces comiques, là, qui se sont mis à faire des films.
Ouais.
Et, même la troupe de Christian Clavier, les bronzés, là,
oui,
comme ça.
Les bronzés, ouais.
Et qu'il faut déjà être drôle. Et puis après, bon, c'est pas vraiment une question d'être bien filmé, c'est pas Kubrick.
D'accord, c'est le jeu de l'acteur en fait qui est important.
C'est le jeu de l'acteur et c'est le scénario, voilà. Qui,
oui.
Bon, et puis c'est les répliques.
Le scénario, c'est souvent un peu léger.
Non, mais le Père Noël est une ordure, par exemple, qui a pas vraiment marché au début.
Ouais.
Et ben c'est devenu un super succès.
Un film culte.
On connaît, ouais, tous et même les
bien
jeunes.
Sûr.
Les jeunes, ouais, connaissent.
J'avais une copine sur Paris qui bossait pour les films, notamment les films des Charlots.
Ouais.
Et il était payé 500 balles, le gag.
Ah
parce,
ouais,
qu'il y avait,
ouais,
un scénario merdeux.
Ouais, ouais.
Et il fallait rajouter des gags à tel moment, tellement il était, ouais, payé pour,
voilà,
ça.
Ouais.
En fait, ça s'appelle des spin doctors. C'est des,
tu vois.
Ouais. Non, non, mais il n'y a aucun sexe là-dedans. Ouais, docteur. Quoi de neuf, alors? Vous voulez pas mettre un disque?
Allez, on va écouter un deuxième morceau, oui, parce justement, alors... parce que là, tu sortais de la misère.
Voilà.
Ces frères misères.
Ah oui, alors, les frères misères. Donc, ce morceau-là, j'ai fait le clip pour Mano Solo.
Mano voilà. Solo,
ah,
tout à fait.
Ah, super.
C'est ça. Eh bien, on écoute.
C'est toi qui as fait le
ça
clip.
Ça s'appelle. Ouais.
D'accord.
Pauvre petit.
Pauvre petit. Mano Solo.
Mano Solo.
Donc, tu as rencontré Mano Solo.
Le fils de Cabu.
Le fils de Cabu. Ouais. Oui. Et en fait, là, sur ce disque, c'est pas, il a pas fait sous le nom de Mano Solo, il l'a fait avec son groupe, Les Frères Misères.
Mm-hmm.
Avant qu'il se
C'était
mette.
C'était avant, hein.
Avant d'être Mano Solo.
Voilà.
Avant d'être malade.
Ouais.
Et donc, en fait, oui, parce qu'en fait, je l'avais vu en concert et tout ça, et puis, je me suis dit, bon, je vais lui proposer, comme ça, mais c'était un clip, justement, après avoir fait du 35 minutes, donc après avoir fait mon fameux Mister Fourmi là,
oui.
Qui a bien marché, j'habitais à Paris après, parce que donc après cette expérience de Lyon là où je suis resté un an, ensuite je suis monté à Paris avec mon ami de l'époque, et donc toujours pareil, pendant qu'elle faisait ses études, un coup je travaillais dans la restauration. Pour
ramener des sous à la maison.
Pour ramener, pour vivre
pour manger,
aussi, parce qu'il faut pas non plus. Et je m'arrangeais parce que je trouvais toujours des bons plans pour travailler dans des endroits assez classe à Paris, comme j'avais déjà des vestes, des papillons, etc.
Et qui rapportaient un peu plus d'argent.
Voilà, c'est-à-dire qu'en une journée, je gagnais 500 francs.
D'accord.
Et c'était pas éreintant comme le travail de brasserie ou c'était totalement différent. C'était toujours c'était des soirées privées, en fait. Bon, c'était...
Parce qu'à l'époque, le cinéma, c'est pas...
Non, et parce que le problème, c'est d'avoir les bonnes connexions. Et donc, moi, je suis arrivé là, mais j'avais aucune connexion. Aucune. C'est-à-dire, ni un oncle qui faisait ci. Et même le peu que j'avais, j'avais un oncle qui avait joué dans un téléfilm, mais ils m'ont pas aidé. Enfin, c'est-à-dire que tu veux faire ça, c'est compliqué. Oui, parce qu'il y a aussi l'autre verre dans la médaille. C'est que toi, tu veux être artiste, c'est ridicule. Tu ferais mieux de rester à Chamonix. Voilà, il y a aussi tout ce parce que c'est totalement incertain ce métier, enfin comme le
comme la musique en général, hein, de toute façon,
gens, la radio ou en musicien, vous pouvez cartonner pendant 3 ans, puis après
plus rien,
c'est je rame hein.
Ouais.
Et puis ça use au bout d'un moment de recevoir des noms
et
puis il faut réussir à rentrer dans un milieu.
Oui, là, il faut réussir à rentrer dans un milieu, mais en proposant aussi des choses quand même correctes.
Ben oui.
C'est-à-dire que les gens disent, bon, ok, mais qu'est-ce que tu fais? Bon. Et puis, peut-être maintenant il y a moins, mais enfin quand même, il y avait quand même un... Si on travaillait dans la télévision, sur les téléfilms, c'était pas bien. Si on voulait travailler par rapport si on voulait travailler au cinéma, alors le pire, c'est si vous travaillez dans les pubs et dans les clips. Alors ça, c'était ce qu'il y a de pire. Voilà. On n'accepte pas.
D'accord.
Hein, c'est comme un musicien classique qui va venir un musicien de jazz.
Oui, ou tout à fait.
Voilà.
Ouais, ouais, ouais.
Et puis, alors, le pire, c'est la variété. Mais bon, la variété, c'est aussi ce qui rapporte le plus. Enfin, ce qui peut aussi rapporter le plus.
Ouais.
Vous voyez, il y a un petit peu ce... C'est-à-dire qu'on ne va pas accepter un guitariste de jazz. Ou même, par exemple, moi, je me souviens, il y avait une espèce d'histoire entre... quand Michael Jackson a sorti son disque Thriller, il y avait dans Beat It, il y avait un solo de gratte qui était fait, en fait, si on regardait les crédits, qui était fait par Eddie Van Halen, donc du groupe Van Halen. Donc il y avait tous les métalleux, les hardeux, qui se sont dit, putain, Van Halen, dès qu'ils ont appris ça, ils ont dit, putain, Van Halen, on va détruire leur disque, bande de collabos, ils ont été joués sur Michael Jackson.
Oui,
c'est lui qui a fait le solo de Beat It.
Ouais. D'ailleurs. Ah ouais, bah tu joues de Beat It ou de l'autre.
Non, non, c'est celui-là.
Ouais, et c'est Eddie Van Halen.
Oui.
Un des frères Van Halen.
D'accord.
Qui, dans ces années, la 80.
Et en fait, il s'est fait mal voir parce qu'il a joué sur.
Oui, mais enfin, moi j'avais des copains hardeux. C'était l'époque avec les Schemacom.
Oui, tout à fait.
Ah ouais, non, mais quand ils
avaient. Il avait mauvaise haleine, d'ailleurs.
Ah bah, il avait tout. Ouais. J'ai mal à ma France, monsieur. Quand je vous entends. Monsieur Vivoux. Monsieur Vivoux de Chamonix.
Alors, Paris, continue.
Paris s'éveille. Oui, le temps passe.
Oui, il faudrait que tu t'éveilles aussi.
Paris s'éveille. Oui, bah, je m'éveille, oui. Bah, attends, il y a que moi qui parle.
Bah, t'es là pour ça.
Bah, j'ai fait de la, bah, voilà. Donc, j'ai fini quand même par travailler dans les trucs. Donc, après, j'ai travaillé comme régisseur sur énormément de publicités. De la Maïzena à la Mercedes, de Flunch à...
T'as connu Gotenner, alors qu'il faisait beaucoup de pubs.
J'ai pas connu Gotenner parce que on en faisait tellement des pubs ça prend 5 jours quoi pour tourner 30 secondes. J'ai fait et puis des clips pour Étienne Dao, Jacques Dutronc et François Hardy.
Et comment c'est eux qui faisaient appel à toi ou c'est toi qui proposais?
Non, c'est-à-dire que il y a des sociétés de production.
Ouais.
Et donc on t'appelle, on te dit bon là, est-ce que t'es libre demain, après-demain, enfin demain dans la semaine. Si tu dis bon, ok, d'accord. On appelle quelqu'un d'autre. Bon,
d'accord.
T'es libre, t'es pas libre. Bon bah ouais, ok, je suis libre, donc j'arrive dans une heure. Ok, on est bien d'accord. Tu sais pas où tu pars.
Ouais.
Est-ce que t'as une voiture? Oui. Est-ce que t'as un téléphone portable? Oui. Ok, donc t'arrives dans une heure. On veut te voir à Suresnes.
D'accord.
Donc
tu sais pas où tu vas.
Tu sais pas. T'as ta carte en tant que bon, y a pas de GPS, donc t'as ta carte, donc t'arrives. Et on dit, bah oui, pareil, Marco, Polo, ou n'importe qui, nous a dit du bien de toi, donc voilà, hop, si tu veux déjà commencer à aller faire du repérage ici, 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 et ensuite, donc tu restes toute la semaine avec nous.
D'accord.
Et c'était payé à l'époque, bon, on va dire, une fourchette 300 euros par jour, quoi. Bon.
Mm-hmm.
Donc c'était à moi de gérer.
Ouais.
Mon temps.
D'accord.
Un truc que je pouvais faire très rapidement, je le faisais très rapidement. Puis il y avait d'autres trucs où il fallait chercher une maison, comme ci, comme ça, voir la propriétaire, dire est-ce que, bon, on peut venir tourner un plan ici dans la rue, aller chez, à la préfecture.
Tu étais chargé de la ville, du repérage, quoi.
De toute la logistique, en fait.
D'accord.
Tu fais toute la logistique.
Ouais.
Le régisseur, voilà.
D'accord.
Et après, tu passes direct. Mais en fait, en même temps, j'étais aussi réalisateur. Donc, je faisais déjà ce poste.
Double casquette.
J'étais réalisateur sur mes propres films.
Oui.
Mm-hmm. Mais là, du coup, je me suis dit, j'ai eu cette opportunité de faire le clip avec Solo. Donc, du coup, j'ai pu là être réalisateur. Donc, au bout d'un moment, il faut choisir son métier. C'est-à-dire, ou tu fais réalisateur, ou tu fais réalisateur. Bon, réalisateur, c'est un métier de soldat. C'est-à-dire que t'arrives à 4h du matin sur le décor.
Ouais.
Et c'est toi qui t'en vas à minuit. En laissant l'endroit clean. Et pas de plaintes, et pas de problème avec les flics. Et pas d'embrouille.
Oui, tu gères
ceci.
Tout de A à Z, quoi.
Voilà, tu gères la logistique. Il faut le micro, il se casse, il faut que t'envoies un petit gars à toi. Ouais. Qui va retraverser Paris chercher un micro neuf,
d'accord.
Ou des piles, ou une écharpe, parce que l'actrice, elle a perdu l'écharpe.
Ou si on te dit, oh, ben là, ça serait bien qu'il y ait un palmier.
Voilà,
oh,
il faut chercher un palmier. Voilà. Enfin bon, c'est là qu'il y a la question. Donc du coup, de là, voilà, donc c'est comme ça là que je suis devenu, en fait, professionnel de la profession. Bon, j'étais intermittent du spectacle, et parallèlement à ça, j'ai aussi monté une société de production. Donc c'est-à-dire que j'avais aussi une carte de producteur.
D'accord.
Et ça tombe bien parce que tu as produit un disque aussi.
Voilà. Tout à fait.
Parce que le temps passe.
Oui.
Et on est bien obligé. Et tu veux en parler, c'est Little Ballroom.
Ouais. Tu as produit, pourquoi tu as produit?
Le morceau s'appelle Big Bang.
Voilà.
C'est des jeunes filles.
Oui, c'est des jeunes filles.
On en parle après?
Voilà, tout à fait.
Eh bien, on écoute d'abord?
Oui. Allez, on écoute.
Big Bang.
D'accord, c'est parti.
Hier, je me suis faite traverser par un train sans tête. Aujourd'hui, je me suis réveillée les pieds dans le cendrier. Je bois par le trou de ma tête, je pense par le bout de mes pieds. Alors, je me mets la tête pour éviter de penser. Et puis, je me prends la tête pour tout ce que j'ai pensé ou fait. Ou peut-être que c'est l'inverse, mais je ne sais plus par quel trou de ma tête penser. Trou, tête, pensée. Traversé par un train sans tête aujourd'hui, demain je me ferai encore traverser peut-être par toutes ces images qui me blessent et qui m'affectent, si bien que je ne regarde plus que le bout de mes pieds. Alors je me mets des pieds en tête pour pouvoir penser, et puis je me prends les pieds dans le tapis pour tout ce que j'ai pensé ou fait, ou peut-être que c'est l'inverse, mais je ne sais plus par quel trou de ma tête penser. Trou, tête, pensée. Trou, tête, pensée. Big bang, 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 dans la tête, big bang, bang.
Big Bang.
Alors si il faut les si on veut les écouter, il faut aller au Pérou, c'est ça?
Non, s'il faut les écouter, elles sont sur YouTube, Little ouais. Ballroom, c'est un groupe de la chanteuse. Elle est très vivante quoi, un petit peu comment elle s'appelait, Catherine Ringer.
Catherine Ringer.
Ouais, elle est un peu plus jeune. Ouais. Enfin bon, elle est très vivante, elle est très rentre dedans et bien, et j'aime bien leur texte. Donc du coup, je me suis retrouvé à les produire dans le sens où bah par un petit hasard, j'ai connu le mixeur du studio Ferber, qui est un grand studio à Paris, 20e. Et bah voilà, donc ils nous ont prêté deux mixeurs et puis tout leur studio. Donc on est vite venu un dimanche de 5h du matin à minuit mixer et enregistrer.
Tu leur as offert la petite maquette quoi.
Oui, parce que bon, j'avais aussi mon intérêt, parce que bon, mon intérêt c'était que ce petit disque fonctionne. Donc après on avait un intérêt financier. Ouais. Quand on débute avec ce qu'on a, mais je pensais qu'elle méritait d'avoir une bonne maquette quoi, ouais. Enfin une maquette mixée par des pros.
D'accord.
Parce que je les voyais surtout en concert. Ouais. Donc là, effectivement, donc, ben, ce disque n'a pas marché.
Voilà. Il n'a pas marché. Bon.
Voilà. Et si, après, donc, quand je suis parti au Pérou, je me promenais avec ce CD, là, et je faisais écouter aux Péruviens. Et
ils disaient,
si, ça, c'est bien, ça. Está muy bien, muy bien. Me gusta mucho.
Et a ganado mucho dinero.
Mucho dinero, hein.
Okay. En Pérou, tu as gagné beaucoup d'argent.
Avec ce disque? Non, je vais passer au départ. Ah ouais, non, au Pérou, non. Non, j'ai dépensé beaucoup d'argent parce que c'est mon dernier film que j'ai fait au Pérou, un documentaire.
Au Pérou.
Oui, au Pérou.
D'accord.
Parce que j'ai resté un an et demi au Pérou, entre 2009 et 2010, la fin 2010. Et donc j'ai fait un documentaire là-bas. Et
tu n'as pas fait de film depuis?
Non, j'ai pas fait de film depuis.
Comment ce film alors là?
Il s'appelle Alpaca. Parce que c'est sur toute la vie, la mort des alpacas.
C'est quoi
un alpaca? C'est quoi un alpaca?
Ah, je sais pas ce que c'est l'alpaca.
Alpaca, c'est un petit lama.
Ah, un alpaga.
Oui, non, mais là-bas, on est un alpaca.
Ah, d'accord, ah, d'accord.
Problème,
ah,
bah, Jean-Monix, monsieur Vivoux.
Attends pour moi,
oui. Il vous plaît.
Hein, d'accord. Bon. Ils sont pas morts, il y en a encore les alpacas.
Non, il y en a. C'est-à-dire qu'on fait justement, on fait des
vêtements.
On fait de la laine.
Ah, ouais,
de la laine,
voilà, c'est ça. Ouais.
Et donc j'ai fait toute la. Et donc ce sont des animaux qui sont élevés à plus de 5000 mètres d'altitude. Et c'est toujours de l'alpage. Enfin, c'est toujours ils broutent de l'herbe. Et avec leur laine, on la redescend dans la vallée. C'est les Quechua qui la redescendent dans la vallée. Et donc, on fait des pulls. Des manteaux, enfin des bonnets.
Des bonnets.
Et quand ils sont bien tissés, ça peut rivaliser avec le cachemire. parce que c'est très chaud et c'est assez léger.
Ouais.
Et après il y a les dans le même genre, il y a la vigogne.
Oui.
qui est un pelage plus rare. Mm-hmm. Donc c'est donc plus cher mais qui est quand même meilleur.
Ouais.
Voilà.
Et pourquoi tu t'es allé faire
Parce que j'avais un ami qui avait un magasin de vente d'alpaca à Chamonix.
D'accord.
Et puis donc lui il était resté au Pérou à Lima pour gérer un peu le business et puis je me suis dit tiens, je vais aller le voir comme ça, puis je vais quand même prendre une caméra. Et puis voilà, du coup, comme je suis arrivé là-bas, j'ai vu un peu ce qu'il faisait, tout ça, j'ai écrit un scénario. Et puis donc avec ma boîte de prod, j'ai commencé à faire ça.
D'accord.
Est-ce que au Pérou, c'est comme en Alsace, hein, les vigognes font leur nid au haut de cheminée, non? Donc,
il n'y a pas de cheminée au Pérou.
Oh là là, c'est pas possible.
Ah ouais, non, mais là j'ai vraiment très mal à ma France. Et alors,
qu'est-ce que tu fais depuis? Tu es dans le coin et tu filmes?
Depuis,
bah,
depuis.
C'est le combat tiers.
C'est le combat. Clonac. Combat tiers. Je suis shérif à Clonac.
Shérif?
Ouais.
D'accord.
Ouais,
non, tu es shérif.
Je suis autonomé.
À Clonac. À Clonac, pardon. Clonac.
Peut-être pas le dire trop fort. Parce que... Non, parce que c'est une aventure qui n'est pas très drôle. Non, mais c'est une blague que j'ai avec mon voisin. Voilà.
D'accord.
D'accord.
Parce que comme j'habite sur la place, et en fait, j'ai acheté une maison qui était avant une ancienne maison où on mettait les fers aux chevaux.
Ouais.
Donc, le bas de ma maison. C'était l'endroit où on rangeait les chevaux. Enfin, on invitait les chevaux à venir.
Maréchal Ferrand.
D'accord.
Maréchal Ferrand.
Ouais.
Tu demandes c'est quand tu sais.
Voilà,
pas,
oui, je te demande. Et donc, j'ai retrouvé, donc du coup, le bas n'est pas habitable, mais, habitable. Si, mais non, on peut faire des lofts et tout ça, si on a de l'argent, mais. Donc voilà, donc c'est pour ça que comme j'ai les chevaux, donc un jour j'ai les fers déjà. Hein, c'est déjà
parce que je croyais que tu avais des chevaux. Non,
non,
tu as les
fers. Mais j'ai la maison.
Tu as la maison et tu as les fers. Voilà. Il ne reste plus que les chevaux. Mais tu fais quoi maintenant? Tu tournes
déjà. Non, mais je tourne. Non, non, non. En ce moment, j'écris et je cherche de l'argent.
Tu cherches des sous.
Voilà.
Et si t'en trouves, tu me le dis, parce que moi aussi. Ok,
d'accord.
Tu me le dis parce que.
Ok, ouais, mais bon, moi, je vous embauche et puis.
Ça, tu peux vous engager déjà pour des musiques, ça.
Je peux vous engager, mais bien sûr. Et puis justement, ici. Non, mais bon, j'avais aussi un peu, après tout ce périple au Pérou, tout ça, comme je me fais vieux. 48 ans. Non, mais bon, après, au bout d'un moment, il faut.
Wow.
Non, mais c'est pas ça. Mais bon, il faut un peu, de temps en temps. Ouais. Et puis bon, j'ai chopé un petite maladie, tout ça. Il fallait que je me.
Tu écris quoi? Un roman ou un.
Non, j'ai qu'un scénario.
Un scénario. Voilà. D'accord.
Et justement, que j'aimerais tourner dans l'Aveyron.
Entre un scénario et un synopsis.
Un synopsis, c'est le résumé du scénario.
Ah, c'est le résumé, d'accord.
C'est-à-dire que dans le scénario, tu as les dialogues et tout.
Ouais.
Alors, on va résumer parce qu'il reste 3 minutes.
Alors,
je voudrais que tu nous parles de Daniel Darc.
Alors, Daniel Darc, je l'ai très bien connu et on a bu énormément de coups ensemble. Et il est mort quand j'étais au Pérou. Maintenant, il est un peu plus connu, mais de son vivant, il n'a pas tellement été connu.
Chanteur, donc.
Oui, chanteur. Daniel Darc, si, parce qu'il faisait partie.
Il faisait partie
d'un groupe qui s'appelait, je sais plus comment ça s'appelait. Enfin bon, il avait fait un succès dans les années 80.
Oui.
Et puis, on peut écouter le disque, c'est ça, non?
Non, il reste pas beaucoup de temps, c'est pour ça qu'on.
Il reste 2 minutes,
explique.
C'est ça.
après, qu'est-ce que je peux dire? Tout d'un coup, vous me prenez.
C'était un chanteur d'un groupe, donc tu as
voulu l'écouter. Ça s'appelait, je cherchais un garçon.
Ah, d'accord.
Je cherche un garçon.
Et j'ai perdu le nom du groupe, là.
Moi aussi.
Et le titre s'appelle J'irai au paradis.
Alors ça, c'est, ensuite, il a quitté ce groupe, là. Et ça, c'était son avant-dernier album. Donc ça s'appelle J'irai au paradis. Donc j'espère qu'il y est pour lui.
Il est mort, donc, depuis.
Il est mort il y a 3 ans.
Ah, d'accord.
Oui, mais bon, il a tout fait pour. On avait même inventé un cocktail qui s'appelait du Bel-Air, de la vodka et du whisky.
Oh.
Ça s'appelait un Darc. Et donc je l'ai connu autour d'un verre.
D'accord.
Et je devais faire des photos avec lui puis un clip et bon moi je suis parti au Pérou puis lui il est parti au ciel.
D'accord. Donc tu l'as pas fait, t'as pas travaillé en fait.
Et non parce que c'est comme ça que ça arrive.
Pas fait.
Parfois on.
D'accord.
On rate donc, mais c'est quelqu'un qui mérite. Mais bon, on en a un petit peu parlé dans la presse.
Ouais.
Mais bon, son titre, effectivement, c'était Chercher un garçon. Ouais, c'est ça. Et avec ce groupe, je sais plus comment il s'appelle.
Et je me rappelle plus non plus.
Bon, bah voilà.
C'est dommage parce que l'émission se termine et puis j'ai l'impression que tu aurais encore plein de choses à nous raconter.
Moi, je reviendrai une deuxième fois.
Ouais, on n'aura pas le temps d'écouter Renaud à la Belle de Mai.
Non.
Et Gainsbourg, No Comment.
Oh, dommage.
Mais on va se quitter donc sur Daniel Darc, J'irai au paradis.
Ouais.
Est-ce qu'il te reste une minute? Tu veux dire quelque chose?
Merci à ZFM, merci à Michel Vivoux et Cathy Fernandez, c'est ça?
Oui, c'est ça.
C'était bien sympa.
Ben, merci
et
à toi.
Puis,
merci.
N'oubliez pas d'aller voter. Non, faut plus.
Non,
on va plus voter. On en a marre.
Tu viens de parler de voter, les lumières s'éteignent, tout se
fait.
Ça y est, la lampe a pété. Voilà, c'est malin.
On en a marre des voleurs.
Ah ouais, là, tu l'as dit.
Et de toutes les couleurs, en plus. Ils sont de toutes les couleurs. Il n'y en a pas qui attrapent l'autre.
Quel est l'acteur, si tu avais des sous, que tu aimerais avoir?
Des sous, Depardieu, Gérard.
Ah ouais?
Ouais.
D'accord.
Bah, tu m'étonnes, super acteur.
C'est un grand acteur.
Ah ouais.
Il a bien fait de se barrer, non?
Je pense. Ouais, enfin, il fait sa vie.
Il fait sa vie,
Bon, je crois qu'il faut finir la mission.
Ouais, mais c'est fini. Mais merci beaucoup.
Merci beaucoup, Sébastien. Bah,
merci
et une prochaine fois, tu reviendras.
Quand tu
nous raconter plein d'histoires.
Merci à César pour la technique.
Merci César.
Merci Cathy.
Merci Michel.
Et Michel, essaye de travailler un peu tes jeux de mots.
Oui, je vais essayer de travailler.
C'est trop pourri.
Et à la semaine prochaine. Restez au chaud. Il fait froid, il pleut.
Allez, bonne semaine. Ciao.
De sang, de boue et de sueur. Et quand je mourrai, j'irai au paradis. Parce que c'est dans l'enfer que j'ai passé ma vie. Quand je mourrai, j'irai au paradis. J'ai passé ma vie. Quand je mourrai, j'irai au paradis. J'ai gâché ma vie. Combien de ruptures, combien de blessures.
Et si on en parlait, une émission parrainée par Hydropièce, concepteur de solutions hydrauliques, zone industrielle des Gravasses à Villefranche-de-Rouergue. Quand il y a de l'eau dans le gaz, une seule adresse, Hydropièce.